Bonjour Michel Barnier.
Bonjour Frédéric Rivière.
Tout d'abord, quelques mots de l'Ukraine. Un accord de sortie de crise a été conclu hier à Genève. Les groupes qui occupent des bâtiments dans l'est de l'Ukraine doivent en principe être désarmés et évacuer les lieux. Est-ce que vous espérez qu'on soit parvenu à une véritable sortie de crise ?
Écoutez, depuis plusieurs mois, c'est la première bonne nouvelle en matière de désescalade. Et c'est bien ça qu'il s'agit après la crise ou l'annexion de la Crimée. Et les troubles qui se produisent dans beaucoup de villes de l'est de l'Ukraine, c'est le premier signal de désescalade du fait que du côté de la Russie, on a compris, et du côté des groupes armés à l'intérieur de l'Ukraine, sous influence russe, qu'il fallait arrêter parce qu'on allait droit à une guerre civile. Donc je pense que c'est une bonne nouvelle, à condition que cet accord, les autorités de Kiev soient capables de le faire appliquer et que les autorités russes, qui ont tant d'influence dans cette partie de l'Ukraine, soient aussi capables de le faire appliquer par leurs amis.
L'Europe peut-elle se prévaloir d'une partie de ce succès diplomatique ?
Et l'Europe, par la voix de Catherine Ashton, a participé à cet accord. Elle y participe depuis, d'ailleurs, elle y travaille depuis longtemps. Et c'est aussi le signal qu'on voit bien que les Européens, s'ils ne parlent pas d'une seule voix, à côté des Russes et avec eux, à côté des Américains et avec eux, ne peut pas être entendu. Donc je tire de cette crise-là, et on pourrait aussi tirer d'autres leçons en matière d'indépendance énergétique de l'Europe à l'égard du gaz russe, l'idée que nous avons un intérêt vital à être ensemble pour agir dans le monde d'aujourd'hui.
On observe aussi, au passage, que l'annexion de la Crimée est de fait entérinée par tout le monde, actuellement.
On sait bien que la solution ne pouvait pas être militaire, et que les Russes ont mis l'ensemble de la communauté internationale devant le fait accompli. Maintenant, au-delà de cette crise de la Crimée, il faut rétablir la stabilité de l'Ukraine, il faut qu'il y ait des élections parce qu'on n'en sortira pas la démocratie. Et je pense aussi que les Russes doivent comprendre maintenant qu'au-delà du point où nous sommes, le risque pour eux est celui de l'isolement. Et l'expérience que j'ai comme ancien ministre des Affaires étrangères de la France, c'est que le plus grand risque pour les Russes, ce qu'ils craignent le plus, c'est en effet l'isolement des politiques, financiers, économiques. Et c'est ça qui est en cause pour eux.
La session plénière du Parlement européen s'est achevée hier. La Commission européenne sera renouvelée dans quelques semaines. Vous allez donc quitter Bruxelles, Michel Barnier. Avec quel sentiment ? Celui du devoir accompli ou un goût d'inachevé ?
Toujours un goût d'inachevé, parce qu'il y a tellement de choses à faire, notamment maintenant que nous commençons à sortir de l'instabilité, de la crise financière. Je ne parle pas de la crise économique et sociale qui est toujours là. La Commission a beaucoup travaillé avec José Manuel Barroso et toute notre équipe en défensive, le dos au mur, mais nous avons réagi, proposé aux chefs d'État, au Parlement, les bonnes décisions en matière de gouvernance économique et dans mon domaine, en matière de régulation financière. Je lisais il y a 48 heures la une du Financial Times parlant du plus grand shake-up dans les marchés financiers et la régulation financière depuis 20 ans. Ça a été mon travail. Donc j'ai fait ce travail parce qu'on avait un devoir vis-à-vis des citoyens, des contribuables, de tirer les leçons de la crise. Et j'ai présenté près de 41 lois de régulation pour que aucun marché, aucun produit, aucun secteur n'échappe à une supervision, une régulation efficace. Ce travail est presque fait. Maintenant, il faut que ces lois soient appliquées. Et puisque je parle aux auditeurs de RFI un peu partout dans le monde, il faut aussi qu'elles soient appliquées de la même manière par tous ceux qui ont signé les accords du G20, qu'il s'agisse des Chinois, des Japonais, des Russes, et naturellement notre premier partenaire que sont les Américains. Donc j'ai encore quelques mois de travail avant le mois d'octobre pour contrôler, vérifier, construire cette interopérabilité, ce level playing field, cet équilibre, cette équité dans les échanges internationaux.
Le président de la BCE, Mario Draghi, disait il y a quelques jours que le niveau de l'euro par rapport au dollar commençait à devenir vraiment problématique et qu'il pourrait prendre des mesures. Est-ce que vous l'encouragez à le faire? Et rapidement.
J'ai pas à encourager ou à décourager Mario Draghi. Ce que je constate depuis qu'il est en fonction, c'est qu'il a fait son travail et que la Banque centrale, indépendante, en respectant son mandat, a joué son rôle, notamment pour faire redémarrer le marché interbancaire en Europe, qui était totalement bloqué et fragmenté. Et donc je lui fais confiance pour prendre toutes les mesures qu'il peut prendre, et on a vu qu'il avait cette responsabilité, qu'il l'assumait, pour éviter que l'euro ne tombe trop bas. L'euro, quand vous le regardez, il est passé dans sa courte vie, en une grosse dizaine d'années, de parfois de 0,60 à 1,50, 1,60 par rapport au dollar. Donc effectivement, je pense qu'il est un peu surévalué. C'est une bonne nouvelle pour nos importations, notamment d'énergie. C'est une mauvaise nouvelle pour nos exportations. Donc je pense que Mario Draghi fera ce qu'il doit faire pour assurer le bon niveau de l'euro.
C'est un problème en particulier pour la France, un euro trop élevé ?
C'est un problème pour une partie de nos exportations, mais quand vous regardez la structure de nos exportations et de notre déficit commercial, qui est trop important, il est quasiment pour les deux tiers dans la zone euro. Donc ce n'est pas l'euro qui est responsable de la faiblesse française de ce point de vue-là, c'est notre problème de compétitivité. C'est aussi pourquoi je pense que les mesures annoncées par le Premier ministre, et même si je souhaite qu'il aille plus loin, sont tellement importantes pour redonner à notre pays, notamment aux entreprises, l'envie et les moyens, les marges nécessaires pour investir, pour innover, pour embaucher aussi. Ça, c'est un problème franco-français, comme celui de notre dette, et c'est nous qui devons le régler, pas les autres.
Alors justement, dans une tribune publiée mercredi sur le site du Figaro, les têtes de liste UMP, qui est votre famille politique aux élections européennes, souhaitent que les électeurs infligent un second désaveu, après celui des municipales à François Hollande, pour, disent-ils, le contraindre à changer de politique. Est-ce que c'est vraiment l'enjeu de ces élections, selon vous ?
Écoutez, vous m'interrogez, moi, comme commissaire européen, je pense que l'enjeu des élections européennes, c'est d'abord d'élire de bons députés européens. Et je peux dire, vous parliez du Parlement qui vient de tenir sa dernière session, d'ailleurs avec des députés qui ont joué leur rôle et qui ont fait honneur au Parlement, comme Daniel Cohn-Bendit et beaucoup d'autres. Il faut que ces députés, on les voit comme des gens très importants, parce qu'ils sont très importants. Dans toutes les lois de régulation financière qui sont tellement essentielles pour la stabilité, j'ai dû recueillir l'accord des députés européens à égalité avec celui des ministres des Finances. Les députés européens sont au moins aussi importants que les députés nationaux. Donc, ce que je peux dire à ceux qui votent, et y compris les Français qui votent à l'étranger, c'est d'aller voter pour qui ils veulent, mais d'aller voter. C'est ça l'enjeu des élections, des élections européennes.
Mais en faire un enjeu national, en voulant sanctionner François Hollande, est-ce que ça n'est pas finalement détourné le sens de ce scrutin ?
Il y a toujours un enjeu de politique nationale, on l'a vu même aux élections municipales. Mais en ce qui me concerne, puisque vous m'interrogez, je pense que l'enjeu des élections européennes, c'est d'élire de bons députés et puis de faire à l'Europe ce que j'ai commencé à faire à ma place, c'est-à-dire une évolution de son modèle économique, de retrouver l'économie sociale de marché, de prendre des initiatives pour sa liberté, son indépendance. Je viens de publier un petit livre qui s'appelle « Se reposer ou être libre » et d'examiner dans ce livre, pour les électeurs, les grands sujets où nous jouons notre liberté, l'indépendance énergétique, la politique industrielle, la démographie, le continent numérique, la défense. Voilà les sujets où les Européens, et c'est ça qui est en cause dans l'élection européenne, doivent être plus actifs ensemble, sinon nous disparaissons et nous serons sous influence chinoise ou américaine.
Pour vous, il faut donc avoir le courage, l'opposition doit avoir le courage de soutenir les décisions du gouvernement si elles vont dans le bon sens, notamment en matière économique. Est-ce que c'est le cas pour le plan d'économie annoncé par Manuel Valls ?
Ce courage ou cette responsabilité, on voit bien par exemple que les partis politiques de gauche et de droite en Allemagne, en Italie, en Grèce, dans d'autres pays l'ont, puisqu'ils agissent ensemble sur certains points. Je ne parle pas d'union nationale, je parle d'accord politique. Oui, il y a dans le plan de Manuel Valls de bonnes mesures. Elles sont dures, elles sont courageuses. On ne peut pas parler d'austérité, mais de bonne gestion, de rigueur, surtout de mesures qui vont redonner de l'oxygène aux entreprises, aux petites et moyennes entreprises qui, dans notre pays, ne bougent plus parce qu'il y a trop d'impôts, trop de taxes, trop d'instabilité fiscale, sociale ou réglementaire. Et il faut redonner de l'oxygène à l'économie française. Et ça, c'est l'objectif de ce plan. Et moi, je pense que si ce plan est confirmé et même accentué sur certains sujets, il faut que l'opposition ait le courage de le soutenir parce que c'est l'intérêt national.
Merci Michel Barnier.